Gracias. Ce soir est une soirée très spéciale dont on va se souvenir, je suis certain. Ça fait déjà quelque temps que je parle avec quelques-uns d'entre vous et que j'étudie ces choses et que j'essaye de mettre au point cela. Et ça y est, j'ai mis le pied à l'étrier, je le fais, je vous annonce ces nouvelles-là. C'est important. Je crois que c'est quelque chose que le Seigneur Jésus nous confie. Tiens, où se trouve Philippe? Il y a une réunion ce soir. Que Dieu le bénisse. Je crois que nous sommes appelés à vivre des choses très fortes. Déjà, nous avons été appelés à la vie communautaire. Ensuite, le Seigneur a permis que nous connaissions le message de William Branham. Nous avons fait le tour du branhamisme. Maintenant, nous avons vu la différence entre le message du frère Branham et les branhamistes. Nous avons vu la différence entre l'homme et le ministère du prophète. Amen. Nous sommes toujours en train d'étudier fidèlement le message, voyant toujours qu'il y a le côté infaillible de l'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas parfait. On le sait, il le savait, et nous le savons. Amen. Et nous voulons être ouverts pour que le Saint-Esprit nous parle toujours, nous montrant ce que nous avons à faire. Quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste ne voulait pas. Il disait, mais c'est toi qui dois me baptiser. Parce qu'il savait qu'il était pur, il était l'agneau de Dieu pur, qui était là pour ôter les péchés du monde. Mais Jésus lui a dit, il est juste, il faut que nous accomplissions ce qui est juste. Il était là pour accomplir une parole. Étant donné qu'il était l'agneau, mais il était aussi le sacrificateur. Et le sacrificateur devait être lavé. Et c'est pourquoi il a fait cette chose merveilleuse. Et ça a été incompris par les religieux. Ça reste encore incompris. Ils le croient sans le comprendre, beaucoup. Et beaucoup de choses sont restées incomprises pendant des siècles et des siècles. Mais nous arrivons à la fin où toutes choses doivent être rétablies. Amen. Et puisqu'elles doivent être rétablies, moi je veux être, non pas quelqu'un... Vous savez, il y a toujours trois sortes de personnes. Il y a ceux qui ne savent même pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a ceux qui voient qu'il y a quelque chose qui se passe, et il y a ceux qui sont dans l'affaire qui se passe. Et moi, je veux être dans l'affaire des choses qui se passent. Amen. Les choses qui sont dans le ciel et les choses qui sont sur la terre doivent être réunies en Christ, en une seule chose. Amen. Et moi, je veux faire partie de cette histoire-là, à la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi je vais vous inviter à faire une première lecture, on va en faire pas mal ce soir, dans Actes chapitre 3, versets 19 à 21. Je vous demanderai d'être éveillés ce soir. Si vous sentez que vous endormez, vous vous levez à votre place, et puis vous vous tenez éveillé, parce que c'est important. Actes 3, 19 à 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, il a invité les gens à se repentir, à se convertir, afin que Jésus revienne. C'est cela qui est écrit. Ce Jésus ne peut pas revenir avant que cela soit fait. D'accord? Et quand cela sera fait, alors il reviendra pour rétablir, quand les choses auront été rétablies, alors il reviendra. Jésus-Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Amen. Donc, la fin des temps, c'est le temps où les choses sont rassemblées, sont restaurées, sont réhabilitées. Le rétablissement de toutes choses a été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. On trouve dans Ésaïe 6, 17, que Dieu veut rétablir la terre, veut rétablir le ciel, que toutes choses doivent être nouvelles. Et Malachi 4, 5, 6 nous dit que Dieu va envoyer Élie le prophète. Qui croit ça aujourd'hui? Tous les chrétiens évangéliques croient que c'est le temps où Jésus doit revenir, mais qui croit que Élie le prophète doit revenir et l'attendent-ils? Ils ne savent même pas, ils ne sont pas au courant. Et la venue d'Élie est pourtant de la plus haute importance pour la réalisation des intentions de Dieu concernant sa semence. Et le prophète William Branham est venu pour annoncer les sept âges de l'Église, d'accord, la semence du serpent, la semence de Dieu, et ces choses devaient être rétablies afin que la semence de Dieu puisse prendre part à l'activité qui doit être la sienne à la fin des temps pour le rétablissement du royaume, c'est-à-dire de la communauté, sur la terre, mais aussi dans le ciel. Amen. Si vous étudierez ça, après on l'étudiera ensemble, on en parlera si vous voulez, je vous expliquerai bien les choses, s'il y a des choses qui vous échappent. Si Élie n'était pas venu accomplir sa mission, la Bible dit que le Seigneur serait venu pour frapper la terre entière de malédiction. C'est écrit dans Malachie 4:6, on a tendance des fois à l'oublier. Donc nous avons encore échappé à quelque chose, mais cela était prédestiné, mais nous devons maintenant savoir ce que Dieu veut de nous qui avons écouté le prophète Élie. Et qui avons donc reçu une partie de son esprit. Rappelez-vous, quand Moïse est venu, eh bien, des gens ont reçu une partie de son esprit. Vous vous rappelez? Quand Jésus est venu, il a répondu de son esprit. Quand Élie vient, il répond une partie de son esprit. Et si nous n'avons pas l'esprit d'Élie, nous ne pouvons pas voir plus loin que le bout de notre nez, et nous ne savons que les choses passées et présentes, mais nous ne voyons pas les choses à venir. Les choses à venir, nous devons y prendre part, et nous devons les manifester comme des prémices. Alors, quand Malachie prophétisa au sujet de la venue d'Élie, à cette époque, la loi morale et les règles rituelles avaient été violées et Élie avait quitté ce monde 400 ans auparavant. Bien, frères et sœurs, aujourd'hui, on est dans une même situation. Les lois morales et rituelles ont été violées par les églises. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi dire, on a des traditions. Cet après-midi encore, je parlais avec une pentecôtiste et j'y parlais du lavage des pieds. Elle me regardait avec des yeux tout ronds. Que voulez-vous qu'elle dise? Je dis, vous avez reçu beaucoup de choses, mais il vous manque encore des choses. Elle me dit, oui, ça c'est bien vrai. Que voulez-vous qu'elle dise d'autre? Elle ne peut pas dire, non, ce n'est pas biblique. Mais il y a d'autres choses qui sont écrites et qui ne sont pas mises en pratique. Et par exemple, c'est ce dont nous allons parler ce soir, une chose qui est très importante et que nous devons faire si nous voulons véritablement participer dans la foi au rassemblement des choses qui doivent être rassemblées et restaurées. Alors ce rassemblement, cette restauration de toutes choses en une, exige une organisation et un plan divin. Une organisation divine et un plan divin. Ce n'est pas donné au monde, c'est donné aux enfants de Dieu. Et ce plan doit permettre à la communauté, à notre communauté en particulier, d'accepter ce rassemblement pour pouvoir le vivre. On ne peut pas vivre une chose qu'on n'a pas acceptée et on ne peut pas accepter une chose qu'on n'a pas comprise. Tant pis pour les intellectuels qui veulent toujours que ça soit super surnaturel et presque inexplicable. Nous, on veut comprendre afin de pouvoir vivre. Amen. Et dans le premier âge, tout ce qui était juste, le prophète nous l'a dit, était mis en pratique et était vécu. Et puis il y a eu une cassure, les choses ont été petit à petit abandonnées et ont disparu pendant des siècles. Et dans la communauté du premier âge, ils avaient la réunion de ce qui était en bas avec ce qui était en haut. Ils pratiquaient d'une façon parfaite cette union des choses qui sont en bas et des choses qui sont en haut. J'en veux pour preuve ce que la parole de Dieu dit dans Éphésiens 1, 9, 10, si vous voulez lire avec moi, ou vous m'écoutez lire, je ne lis pas promis, ça va. Éphésiens 1, 9, 10. Où il est dit, on peut lire déjà un petit peu avant, « Dieu a répandu abondamment sur nous pour toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Et à leur époque, les choses étaient réunies. Le Seigneur était prêt à revenir d'un instant à l'autre, si vous voulez. Les choses étaient réunies. Mais il devait y avoir sept âges de l'Église. Et à la fin, les choses devaient être rétablies. Donc, pour qu'elles soient rétablies, il fallait qu'elles soient abandonnées. D'accord? Bon. Dans les sept âges de l'Église, Dieu a toléré beaucoup de choses. Dans les âges qui nous ont précédés, il les a tolérées. Mais aujourd'hui, tout doit revenir comme c'était dans le premier âge. Dans le premier âge, on sait... Et cela me travaille maintenant depuis plusieurs mois.
Je le savais déjà avant, mais ça me travaille maintenant. Il y a des choses que l'Esprit fait, vous savez, dans le cœur d'un serviteur de Dieu. Et là, ça me travaille depuis plusieurs mois. Il pratiquait le baptême pour les morts. On trouve ça dans 1 Corinthiens 15, 29, que vous pourrez lire, d'ailleurs on va le lire tout à l'heure, mais dans son contexte. Si les chrétiens du premier âge le faisaient, frères et sœurs, c'est qu'ils considéraient ça comme un devoir. Amen. C'était un acte qu'ils devaient accomplir, ils se sentaient investis d'une mission en vue de la résurrection de leur bien-aimé qui était déjà mort et qui n'avait pas été baptisé. S'ils n'avaient pas considéré ça comme un devoir, pourquoi est-ce qu'ils l'auraient fait? Par superstition? Je ne pense pas que l'apôtre Paul aurait parlé d'une superstition en prenant cela comme un levier pour faire bouger la foi de ces braves Corinthiens à qui il s'adresse. Il en a parlé parce que c'était une chose qu'il croyait lui-même. Pourquoi donc ces gens se font-ils baptiser pour les morts si la résurrection n'existe pas? Ça veut dire, si la résurrection existe, c'est bien qu'ils se fassent baptiser pour les morts. Bon. Et maintenant, de nos jours, Dieu ne nous demande-t-il pas de revenir à la doctrine des pères de l'Église, c'est-à-dire des fondateurs de l'Église qui vivaient hors âge et dans le premier âge? La réponse est oui, on doit revenir. Et je vous ai déjà enseigné que ce n'est pas seulement une doctrine qui doit être établie, mais des actes de foi. Amen. Pas simplement le lavage des pieds, mais réellement le pardon que nous nous accordons les uns les autres. Pas seulement la doctrine de la communauté, mais la vie en communauté. Pas... Maintenant, ils disent tous la communauté de ceci, la communauté de ça, mais ils ne vivent pas en communauté, ils ont juste le nom. Nous avons la vie de cela. Alors, je vous ai enseigné aussi, il y a quelque temps, pour préparer vos cœurs, qu'il y a des degrés de résurrection. Vous vous rappelez de ça dans Hébreux 11, 35, que après la mort, certains auront une meilleure résurrection que d'autres. Vous vous souvenez de cela? Bon, quand Jésus était sur la terre, il a dit, il a annoncé son intention d'aller prêcher aux morts. On trouve ça dans Jean 5, 25, 28. Jean 5, 25, 28. Alors j'ai des petits bouts de papier, mais alors ils sont tous en train de s'envoler comme ils veulent. Bon. Jean 5, 25, 28. Vous allez voir, on a une croyance au sujet de ce verset, mais elle va commencer à changer. Jean 5, 25, 28. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Alors nous, on a cette idée que les morts entendront la parole de Dieu, c'est-à-dire les morts spirituels entendront la parole de Dieu, et ceux qui recevront cette parole, ils vivront, ils recevront la vie éternelle. C'est très bien, c'est pas faux, c'est vrai aussi. Mais ça a aussi une autre signification plus profonde qui va avec beaucoup d'autres textes des Écritures. Pierre parle de Jésus étant allé prêcher aux morts du temps de Noé. Et alors on va lire 1 Pierre 3, 18, 21. 1 Pierre 3, 18 à 21. Écoutez ça. Christ aussi a souffert une fois pour tous les péchés, une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc sa chair est morte, et il était rendu vivant quant à l'esprit. Rappelez-vous bien de cette formule. Dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées, excusez-moi, mais à travers l'eau. Amen. Alors, la grande question est, mais qu'est-ce qu'il est allé leur prêcher? Alors, dans les milieux évangéliques, on a coutume de dire qu'il est allé leur signifier leur perdition due à leur entêtement à ne pas croire. D'accord? C'est ce qu'on dit, c'est ce que j'ai prêché jusqu'à ce jour. Mais je n'ai pas honte de changer d'idée. Quand je trouve quelque chose dans la Bible que je comprends soudain, je ne vais pas dire, oh là là, je me suis gouré autrefois, donc je ne vais pas leur dire que maintenant j'ai compris parce que je passerai pour un idiot. Je ne vous ai jamais fait ce coup-là, hein? Je vous ai toujours dit, excusez-moi, là je me suis trompé, maintenant je vous dis la vérité parce que j'ai compris, le Seigneur m'a montré. Parce que frères et sœurs, si on croit véritablement que Jésus est allé prêcher aux morts simplement pour leur dire « Bisque, bisque, rage, vous avez perdu, vous avez joué le mauvais cheval, vous auriez dû croire, c'est bien fait pour vous, je vous signifie... » En fait, je ridiculise un peu la chose, mais c'est un peu ce que ça veut dire. Hein, vous n'avez pas voulu croire, ben vous êtes perdu. Ouais, on savait déjà. Hein. Ouais, non, mais je viens vous le dire moi-même. Non, c'était pas ça. Croire ça, c'est oublier 1 Pierre 4, 5, 6. Et on va le lire. 1 Pierre 4, 5, 6. Écoutez bien. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux ? Voilà, verset 5, 6. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a aussi été annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Vous vous rappelez, quant à la chair, quant à l'esprit. Maintenant, s'il n'y avait pas le petit mot « aussi », ça serait complètement différent, la phrase. Mais il y a le petit mot « aussi ». Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. C'est-à-dire que l'évangile a été annoncé aux vivants, et il a aussi été annoncé aux morts. Afin que, ils ont été jugés quant à la chair, c'est-à-dire perdus, mais ils peuvent vivre quant à l'esprit, s'ils croient cet évangile qui leur est annoncé, là, en tant que personnes qui ne sont plus sur cette terre. Vous comprenez? Sinon, le petit mot « aussi », s'il n'y a pas le petit mot « aussi », ça ne signifie pas ce que je suis en train de vous dire. Mais il y a le petit mot « aussi ». L'évangile a aussi été prêché aux morts, afin que les morts, qui, après avoir été jugés quant à la chair, vivent selon l'esprit. Amen. Vous comprenez la chose? C'est très grave de ne pas l'avoir compris. L'évangile est prêché aux morts. Bon, maintenant je vais plus loin. Jésus, il a prêché à ces morts-là, c'est-à-dire à ceux du temps de Noé, et le ministère de l'Église primitive était de faire ce que Jésus a fait, et même d'en faire de plus grandes. Jésus a commencé son ministère sur la terre en faisant des choses et en disant des choses, et les apôtres ont continué à enseigner et à faire les choses que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner. Vous vous rappelez ça, Luc chapitre 1. Et les apôtres enseignaient, voilà vous les frères et sœurs, maintenant que vous avez reçu le Seigneur Jésus, quand vous allez mourir, vous irez enseigner le reste des morts. Ainsi, le rétablissement de ce qui est sur la terre et dans le ciel est accompli. Et ça a été perdu. Et je vais vous sortir des dates, et je vais vous sortir les endroits dans les conciles catholiques où cette doctrine a été taxée de hérétique. Ils l'ont cru pendant longtemps cela. Et je vais vous sortir les dates, je vais vous donner beaucoup d'informations au sujet de cela. Il n'y a pas que le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ ou la Trinité ou ces choses-là, il y a aussi au sujet du baptême des morts, ça a été rejeté dans un concile, je ne me rappelle plus, je n'ai pas là les dates, mais je vous les donnerai. Dieu voulant dimanche. Donc Jésus a prêché aux gens du temps de Noé, et notre ministère à nous est, lorsque nous quitterons notre vie terrestre, de faire ce que Jésus a fait lui-même, c'est-à-dire aller enseigner aux morts. Est-ce qu'on va aller pendant des années et des années enseigner aux morts? Peut-être pas, j'en sais rien combien de temps. Jésus, lui, il a été 3 jours et 3 nuits. D'accord? Nous, je ne sais pas combien de temps on ira. Pourquoi est-ce que nous sommes appelés à aller leur prêcher? Pour qu'ils puissent entendre l'évangile, afin qu'après avoir été jugés selon la chair et mis en prison, ils puissent vivre quant à l'esprit. Amen. Tous, non pas tous, ceux qui sont de la semence de Dieu et qui n'ont jamais entendu prêcher la parole de Dieu, ou qui l'ont mal entendu prêcher, ou qui ont été incrédules mais qui étaient quand même de la semence de Dieu. Ça bouleverse beaucoup de croyances. Ainsi, la semence de Dieu qui n'a pas entendu ou qui a mal entendu prêcher de son vivant pourra entendre là et avoir foi dans le Seigneur Jésus. L'évangile leur est aussi prêcher, et ils doivent être jugés. Jésus est descendu dans les lieux inférieurs de la terre pour prêcher, afin de réunir toutes choses. On a lu ça dans Éphésiens 4, 9. Est-ce qu'on a lu ça dans Éphésiens 4, 9? Je crois pas. On va le lire. Éphésiens, je ne sais plus si on a déjà lu cette référence. Éphésiens, on a lu Éphésiens 3 tout à l'heure. Hein. Éphésiens 4, 9, 10. Écoutez bien. Or, que signifie « il est monté », sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Qu'est-ce qui s'est passé là? Écoutez bien, frères et sœurs. Ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans ces lieux inférieurs de la terre, Jésus est allé leur prêcher afin de remplir toutes choses. Ceux qui sont en prison sont ceux qui ont été jugés quant à la chair. 1 Pierre 4,19, on l'a lu. Et il y a là, dans cet endroit, dans ces prisons, deux catégories. La semence du serpent et la semence de Dieu qui n'a pas entendu de son vivant l'évangile de grâce. La semence du serpent rejettera l'évangile de grâce et la semence de Dieu y croira. Dieu ne perdra aucun des siens, mes frères et sœurs. Aucun. Il y a des gens papous qui n'ont jamais entendu l'évangile au 5e siècle, au 2e siècle, au 3e siècle. Peu importe, ils sont de la semence de Dieu, ils auront l'occasion là. Aujourd'hui, il y a des gens qui autour de nous sont peut-être de la semence de Dieu, mais parce que nous ne leur prêchons pas l'évangile, ils iront en mourant dans cet endroit-là. Mais là, des serviteurs de Dieu fidèles, après leur mort, iront leur prêcher. Parce qu'ils sont de la semence de Dieu. Mais nous, qui n'aurons pas été leur prêchés, nous serons jugés pour cela, et nous ne perdrons pas notre salut à cause de cela, mais nous perdrons des récompenses. Vous voyez, frères et sœurs? Alors, la semence de Dieu croira, mais il leur manquera à ce moment-là quelque chose en vue de leur salut parfait. Dans Marc chapitre 16, il est clair qu'il faut croire et être baptisé pour être sauvé. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. C'est croire et être baptisé. Le baptême est très important. Le baptême ne sauve pas, mais sans baptême, le salut n'est pas le salut, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait. Donc, pour être sauvé, il faut être baptisé, et en plus, être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, nous connaissons beaucoup de chrétiens qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous savons que ce baptême-là, devant Dieu, et ils sont partis dans la gloire. Eh bien, il faudra être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour eux. Or, un esprit ne peut pas être baptisé dans l'eau. Cet acte doit donc être accompli par procuration, les vivants pour les morts. Vous comprenez? Quand les esprits des disparus acceptent l'évangile qui leur est prêché en prison, là, dans l'endroit où ils sont, leur cœur se tourne ainsi vers leurs enfants qui sont sur la terre, vous voyez? Et eux ont la possibilité, les enfants qui sont sur la terre, de se faire baptiser pour leurs parents défunts, afin que ceux-ci, ceux qui sont défunts, puissent aller de l'avant et, comme le dit Pierre, soient vivants quant à l'esprit. Amen. C'est-à-dire hors de prison. Jésus a fait ça. Jésus a fait ça. C'est écrit dans Éphésiens 4, 8 qu'il est allé dans ces endroits et il a emmené avec lui en haut des captifs, c'est-à-dire des gens qui étaient captifs dans ces prisons, dans les lieux inférieurs de la terre. Vous voulez qu'on le lise? Éphésiens 4, 8. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? C'est révolutionnaire, non? Éphésiens 4, 8. Éphésiens 4. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a donné des ministères. Mais, étant monté en haut, il a emmené des captifs. D'où? Eh bien, justement, des lieux inférieurs. Que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Verset 9. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre, il est monté en haut, c'est-à-dire vers le Père. Et nous, on sait très bien qu'il n'y était pas monté quand il a rencontré Marie-Madeleine. Il lui a dit, mais je ne suis pas encore monté au Père, ne me touche pas. Il était en train de monter avec en emmenant des gens qui étaient captifs avec lui. Et il nous a chargés de faire de même. De faire de même. Amen, vous y croyez? Alors, Jésus a fait cela, et ainsi s'accomplit aussi, si nous le faisons, ce que Malachie 4, 6 dit, les parents se font baptiser pour leurs enfants morts, et les enfants se font baptiser pour leurs parents morts. C'est-à-dire que le cœur des enfants est rapproché du cœur de leurs parents, et le cœur des parents est rapproché du cœur de leurs enfants qui sont déjà partis dans la gloire. Moi, j'ai des enfants qui sont partis, avec Michaud, on a des enfants qui sont partis, qui n'ont pas été baptisés. Il faudra qu'on se fasse baptiser pour eux. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Ça nous montre la justice de Dieu. Vous trouvez-vous que ça serait juste sans cela? Ben, écoutez, jusqu'à maintenant, j'ai dit oui par la foi, mais maintenant, je dis non, ça ne serait pas juste. Parce que la foi m'indique qu'il y a autre chose, il y a un autre chemin, un chemin de justice qui se trouve dans la parole de Dieu. Amen. J'ai dit oui par la foi sincèrement parce que je ne comprenais rien d'autre. Mais quand nos yeux s'ouvrent sur quelque chose, alors on ne doit plus dire oui sur une chose ancienne qui nous semble dépassée, idiote, stupide, religieuse. Et on doit dire oui à la parole de Dieu. Et alors là, parce qu'elle nous montre la sagesse infiniment variée de Dieu, la justice de Dieu, l'évangile est à la portée de tous les enfants de Dieu, qu'ils aient entendu prêcher sur la terre dans leur état mortel ou non. La majorité des enfants de Dieu n'ont jamais eu cette chance, frères et sœurs. Je vous l'affirme. N'ont jamais eu cette chance. Parce que la Bible nous dit que leur nombre sera incalculable. Je vous le dis en vérité. Le nombre des chrétiens est calculable sur la terre. Ce n'est pas innombrable. On peut déjà compter le nombre de personnes qu'il y a sur la terre. Et on peut compter même le nombre de personnes qu'il y a eu sur la terre depuis qu'on sait qu'il y a des hommes. Donc, ce n'est pas innombrable, même à la limite. Mais c'est quelque chose de faramineux. Ben, je vous le dis, frères et sœurs, le nombre des chrétiens, ce n'est pas faramineux. À moins qu'on prenne aussi les catholiques, et puis mais on sait bien que ce n'est pas possible. On va lire 1 Corinthiens 15, 16 à 29. C'est une longue lecture, mais on va le faire. 1 Corinthiens 15, 16 à 29. Voilà. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alors maintenant, attention, correction. On a une lecture pentecôtiste évangélique de ce texte-là. Quand c'est écrit... Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, ça veut dire, nous espérons pas seulement pour cette vie, mais nous espérons pour la vie éternelle. Mais c'est pas ça que le texte dit. Dans son contexte, il veut nous dire que ce n'est pas seulement dans cette vie qu'on peut espérer en Christ, mais aussi dans l'autre. Et je vous continue le texte pour vous le montrer. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, et il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Aussi, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Il y a des rangs. Christ comme prémisse, le premier. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Donc le diable et toutes ces choses. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Je vais vous dire quelques mots sur la mort tout à l'heure. Dieu en effet a mis tout sous ses pieds, sous les pieds de Jésus, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui sont baptisés pour les morts? Vous voyez? Autrement, il a l'air de dire, tout ce que je vous dis là, ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce qu'ils sont baptisés pour les morts? Ça ne sert à rien si tout ce que je vous dis là, ce n'est pas vrai. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Amen. Ça devient clair, c'est fantastique. Alors, frères et sœurs, il y a des rangs différents. Il y a Christ et il y a ceux qui sont en Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Ça, on l'est ou on ne l'est pas en Christ. Mais si on l'est, on l'est de tout temps. Et on est prédestiné au salut. Et on sait que ceux qui sont prédestinés au salut, par dedans, il y a l'épouse. D'accord? C'est encore une autre chose, une autre catégorie, un autre rang. C'est pourquoi les morts en Christ qui n'ont pas entendu l'évangile, ils sont morts en Christ, c'est-à-dire ils sont en Christ de toute éternité, mais ils n'ont pas entendu l'évangile, mais ils sont quand même en Christ, ils sont morts et ils sont en prison. Ils sont dans ces lieux inférieurs, là-dessous. Mais ils n'ont pas été baptisés de leur vivant, ils espèrent dans l'autre vie, là où ils sont. Sinon, on est les plus malheureux des hommes, si ce n'est pas vrai. Pourquoi? Mais parce que c'est terrible. Quelle espérance on a pour nos morts? Et puis eux, c'est terrible. Quelle espérance ils ont s'ils sont en crise de toute éternité et qu'ils n'ont pas entendu l'évangile? Ou comme ma grand-mère, ils sont en crise mais ils n'ont pas été baptisés, ils n'ont pas eu le temps. Ma grand-mère, elle est tombée dans le coma tout de suite, elle a été hospitalisée, elle est morte, on n'a pas pu la baptiser. Et c'est seulement celui qui croira qui sera baptisé et qui sera sauvé. Vous voyez la chose? Alors, ils espèrent que Christ nous inspirera et que nous nous fassions baptiser pour eux afin que toute justice soit accomplie. Amen. Alors, notez que Paul parle de l'espérance en Christ dans l'autre vie dans le même texte que le baptême pour les morts. Et il y a ce petit mot, autrement. Il vient de dire, si c'est autrement, alors vraiment, ça ne sert à rien de se faire baptiser pour les morts. Ésaïe 24, 21, 22, dans la version Darby, nous parle de personnes qui sont des esprits en prison et qui seront visités. Ils seront visités comme le furent qui, les incrédules, le furent par Jésus-Christ à son époque. D'accord? Et cette visite, elle est destinée à leur donner la chance d'entendre quoi? Le message du salut. Ça tourne toujours le machin. Super. Les captifs qui sont de la semence de Dieu seront emmenés en haut. Par votre prédication, quand vous serez mort, si vous allez prêcher là-bas, par votre prédication, et si vous n'êtes pas mort, par le baptême que vous prenez pour eux, ils seront baptisés par procuration. Ils auront accepté l'évangile parce qu'ils auront entendu l'évangile et seront baptisés par procuration. Et ainsi, Marc 16 est en ordre. Alors, on va prendre maintenant Matthieu 5, 25, 26. Vous ne dormez pas ?
Je vois là, vous êtes tous avec des yeux grands ouverts. Matthieu 5, 25, 26.
Rappelez, c'est le passage où Jésus dit, vous avez entendu dire aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tue mérite d'être puni par les juges, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni hein, par les juges. Alors 25-26, accorde-toi donc promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. C'est-à-dire, un cadran, c'était 6 centimes à l'époque. Ce que Jésus dit là, c'est que dans l'ancienne alliance, tuer, ça méritait la mort, d'accord? Et que maintenant, même de se mettre en colère contre son frère, on mérite la mort. Et si on ne s'arrange pas, on est jeté en prison. Mais quand on est jeté en prison, il y a un espoir. Si on doit payer pour en sortir, d'accord? Mais si nous ne... J'ai été un peu plus loin que mes notes, là. Jeter en prison dans les lieux donc inférieurs et que nous aurons donc quelque chose à payer jusqu'au dernier cadran. Mais cette phrase-là, elle nous montre bien que nos morts, semences de Dieu, qui sont dans ce cas-là, c'est-à-dire qui sont mis en colère contre leurs frères ou qui n'ont pas cru ou qui n'ont pas eu le temps d'être baptisés, peu importe, qui sont semences de Dieu, ils ont été mis en prison. Ils ont une chance de sortir de là, ils ont quelque chose à payer, c'est une souffrance pour eux en ce moment, mais ils doivent en sortir et ils en sortiront, frères et sœurs. Je vais vous expliquer comment ils vont s'en sortir. Quand ils auront payé le dernier cadran, et ça laisse entendre qu'ils auront une seconde chance, comme ceux qui ont été incrédules à l'époque de Noé. Et je vais vous expliquer parce que ça va vous paraître une chose énorme. On va dire, alors on va se faire baptiser pour tous les papous, pour tous les Chinois, de tous les âges. On va rester dans l'eau sans arrêt, quoi. Ça va être épouvantable. Alors, Paul disait, je n'ai pas honte de l'évangile. Ben, écoutez, frères et sœurs, pourquoi il disait ça? Ben, parce que justement, il savait qu'aucun des enfants de Dieu n'irait jamais à la damnation éternelle. Tant qu'on a ce problème, ça fait drôle. Parce qu'on se dit, mais quand même, il y a quand même... Vraiment, c'est peu, c'est terrible. Et alors, vous voyez, par exemple, même les branhamistes qui disent « Non, tu ne peux pas être sauvé parce que tu n'es pas baptisé correctement, etc. » C'est terrible. Il y a quand même des enfants de Dieu. Je vous ai toujours dit qu'il y a des enfants de Dieu dans toutes les dénominations. Et il y en a même qu'on ignore, qui sont dans aucune dénomination. Je me rappelle de Mme Saint-Pierre, qui était là dans sa maison. Et je lui parle de l'évangile. Elle me dit « Oh, mais je connais l'évangile. » Et moi, j'ai donné mon cœur à Jésus. Elle avait entendu la radio depuis des années à 5h15. C'est curieux. Est-ce qu'elle était une grande sainte d'église? Non. Mais elle croyait au Seigneur Jésus. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. A-t-elle été baptisée? Non. Alors, dans l'évangile est révélée quoi? La justice de Dieu, nous dit Paul. Romains 1, 16, 17. Par exemple, je vous dis que ça ne serait pas juste que Mme Saint-Pierre, qu'on connaît, qui croyait dans le Seigneur Jésus-Christ, peut-être pas aussi bien que nous, parce qu'elle n'était pas enseignée aussi bien que nous, ça ne serait pas juste si elle est une semence de Dieu, ou que ma grand-mère, qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est convertie et qui est mort quelques temps plus tard, sans avoir été baptisée, ne puisse pas être sauvée simplement parce qu'elle remplit une partie de la condition, mais pas la deuxième. Elle a cru, mais elle n'est pas baptisée. Et c'est clair, c'est croire et être baptisé. Si on croit toute la parole, c'est ça. Ça ne serait pas juste. Et l'apôtre Paul qui dit « Je suis fier de l'Évangile, je n'ai pas honte de l'Évangile », il disait « L'Évangile, il révèle toute la justice de Dieu. » Et la justice de Dieu, c'est ça, c'est ce que je suis en train de vous dire ce soir. Amen, vous voyez ? Moi, je dis « Grâce soit rendue à Dieu, qu'il ait prévu que son Évangile ne sera pas seulement prêché aux vivants terrestres, mais aussi aux morts, comme on l'a lu tout à l'heure, aussi également à ceux qui sont descendus dans la tombe. » Amen. Alors, c'est grâce au baptême des morts. S'ils acceptent l'Évangile qui leur est prêché, ils pourront, et ils ont déjà été jugés quant à la chair, c'est pourquoi ils sont dans cet endroit, mais ils pourront vivre selon Dieu quant à l'Esprit. Amen. C'est-à-dire vivre éternellement. Donc, quand Paul dit qu'il est donné à l'homme de vivre une seule fois après quoi vient le jugement, dans Hébreux 9, 27, moi c'était le gros verset qui m'embêtait parce que c'est quand même écrit net, il est donné à l'homme de vivre une seule fois après quoi vient le jugement, eh bien le jugement, ils l'ont eu. Ils ont été mis en prison, jugés quant à la chair. Les morts qui sont en prison ont été jugés quant à la chair, mais ceux qui sont de la semence de Dieu vivront quant à l'esprit, c'est-à-dire ils ressusciteront. Et vivront éternellement. Pas les autres, la semence du diable, non. Paul savait que sous terre, en prison, dans les lieux inférieurs de la terre, je prends les termes bibliques, il y avait des gens qui fléchiront les genoux. On trouve dans Philippiens 2, 10, 11, c'est écrit. Les genoux fléchiront au nom de Jésus-Christ. Amen. Les morts ne peuvent fléchir les genoux devant Christ que quand l'Évangile leur est prêché. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'ils vont fléchir les genoux ? Que quand l'Évangile leur est prêché ? Parce qu'ils ne voient pas Jésus dans cet endroit. Rappelez-vous ce que Frère Branham a dit, ils ne voient pas Jésus plus haut. Vous vous rappelez de ça ? Eh bien, en ce moment, à la fin des temps, le rétablissement de toutes choses a été fait et l'Évangile a été prêché dans les prisons. Il n'y a pas un mort qui n'a pas entendu l'Évangile prêché. Et ceux qui meurent maintenant arrive tout de suite dans un endroit où l'Évangile leur est prêché parce que c'est maintenant le rétablissement, aussi bien sur terre que dans le ciel. La maison de Dieu, le jugement est fait, dans cet endroit, l'Évangile est prêché, le rétablissement de toute chose passe par le rétablissement de l'Évangile en tout lieu. Ce rétablissement a été fait dans notre dispensation de la plénitude des temps, c'est la fin des temps, donc il est logique de croire, il est normal de croire que l'Évangile a été prêché dans son intégralité à tous ces gens, et pas seulement à ceux qui ont été incrédules du temps de Noé. Amen. Jésus l'a fait pour nous montrer le chemin. Maintenant, c'est à nous de faire la suite. Dieu a décrété qu'il réunirait en une seule, en Christ, toutes les choses se trouvant dans les cieux en haut et sur la terre en bas. Ceux qui ont reçu le ministère de prêcher sur terre, quand ils seront morts, ils prêcheront dans les lieux inférieurs. Comme Jésus-Christ l'a fait. Il l'a fait en son temps. Et il a dit, ceux qui croiront, ils feront les mêmes choses que moi. Et même de plus grand. On sera peut-être 7-8 jours alors. Et l'évangile qui est prêché aux défunts est le même, frères et sœurs, que celui qui est prêché aux vivants sur cette terre. Alors, pour le moment, il nous est demandé de nous faire baptiser pour nos morts. Mais nous ne savons pas qui en est digne. Alors comment est-ce qu'on va faire les choix? Comment on va savoir? On peut se tromper en nous faisant baptiser pour des défunts qui sont de la semence du diable. Et je vous le dis, frères et sœurs, ça sera un geste de foi, un geste d'amour. Vous ne serez jamais puni pour avoir fait ça. Vous ne serez pas plus puni d'avoir fait ça que Pierre a été puni pour avoir baptisé Ananias et Saphira ou Simon le magicien, alors qu'ils étaient vivants. Vous comprenez? On peut baptiser des gens au nom du Seigneur Jésus-Christ, et puis on n'est pas sûr qu'ils sont de la semence de Dieu, et bien la même chose pour les défunts, vous n'allez pas être puni si vous faites baptiser pour votre grand-père ou votre grand-mère, alors qu'ils sont peut-être de la semence du diable, vous ne serez pas puni pour ça. Amen. D'accord, que ce soit clair. Mais il y aura un temps où toutes choses vont être révélées à nos cœurs. Pendant le millénium, on saura, parce qu'on sera en direct avec le ciel, on saura les noms, on saura les renseignements concernant ceux qui sont prêts et dignes d'être baptisés, parce que tout sera révélé à nos cœurs. Amen. Donc pendant le millénium, il va y avoir une de ces séries de baptêmes, et ça va être extraordinaire. Nous allons faire ça pendant le millénium. Pendant le millénium, Jésus-Christ lui-même finira de mettre ses ennemis sous ses pieds, c'est ce qui est écrit dans la Bible, et il finira donc évidemment aussi de faire rentrer en haut tous ceux qui sont en prison, c'est écrit, c'est normal. Amen. Parce que pendant le millénium, ne sera ressuscité que l'épouse. Vous savez ça. Alors, il faut savoir que, parce qu'au sujet de la mort, je vous ai dit que j'allais vous dire quelques mots au sujet de la mort. La mort, ça ne vient pas de Dieu. Ça va être détruit. Ça ne vient pas de Dieu. Il faut savoir que Adam et Ève n'étaient pas immortels. Ils étaient immortels. Ça veut dire que Adam et Ève pouvaient mourir, mais leur non-mort tenait à l'arbre de la vie et non pas à leur structure, à la structure de leur être. Ils devaient, s'ils mangeaient à l'arbre de la vie, ils vivaient. S'ils n'en mangeaient pas, ils mourraient. Et ils n'ont pas mangé, ils ont mangé à l'autre, et Dieu a enlevé l'arbre de la vie. Voilà pourquoi ils sont morts, c'est parce que l'arbre de la vie leur a été enlevé. Vous comprenez? Ils n'étaient pas immortels, ils étaient immortels. Il y avait cette chose qu'ils devaient faire. Mais nous maintenant, on mange à l'arbre de la vie. Amen. Alors, la mort, on sait, c'est la conséquence de la chute. Genèse 2, 17, Genèse 3, 3 et 19, Romains 6, 23. On sait que la mort, c'est la conséquence de la chute, comme la maladie et toutes ces saletés qu'on vit là. Et ceux qui sont morts et qui sont fils de Dieu, c'est comme nous qui sommes fils de Dieu et qui sommes malades. Ce n'est pas parce qu'on est fils de Dieu qu'on n'est pas malade. Ce n'est pas parce qu'on est fils de Dieu qu'on ne meurt pas, parce qu'on est encore dans cette dispensation. Mais les fils de Dieu qui sont morts et qui n'ont pas entendu l'évangile ou qui n'ont pas eu le temps d'être baptisés ou quoi que ce soit, toutes ces choses que je vous ai dit, ceux-là, Jésus finira de les rassembler à l'église pendant le millénium, parce que Jésus, son travail, c'est d'ajouter à l'église ceux qui sont sauvés par la prédication, ici-bas sur cette terre, mais par la prédication dans les lieux inférieurs. Il nous a montré le chemin en y allant lui-même. Amen. Et puis alors, évidemment, à ce moment-là, ceux qui seront purs resteront purs, et ceux qui sont impurs resteront impurs, parce qu'il y aura des gens qui préféreront les ténèbres à la lumière. Qui préférera? Ben, les enfants du diable. C'est impossible qu'un enfant de Dieu préfère les ténèbres à la lumière. Mais les enfants du diable révéleront à ce moment-là, aussi bien qu'ils le révèlent ici-bas sur terre, qui ils sont. Amen. Frères et sœurs, je crois de tout mon cœur qu'on a été choisis parmi d'autres et avec d'autres pour servir le Seigneur dans un service sacré qui a fait parler la langue des prophètes, qui a fait écrire la plume des prophètes depuis des siècles et des siècles. On a été choisis pour accomplir cette œuvre sacrée. Qu'est-ce qu'ils nous diraient nos ancêtres s'ils pouvaient nous murmurer quelque chose à l'oreille? Mais c'est interdit, ils ne peuvent pas le faire. Eh bien, ils nous diraient, voilà des siècles que nous sommes dans cette prison à attendre que cette dispensation de la fin des temps arrive, où les choses sont restaurées, rétablies dans l'Église, pour que les choses qui sont sur la terre puissent l'être avec le ciel. Amen. Je crois même que s'ils en avaient l'autorisation, eh bien, les tonnerres eux-mêmes résonneraient ces choses à nos oreilles. Je m'avance avec les sept tonnerres. Si seulement nous nous rendions compte de l'importance de l'œuvre dans laquelle on est engagé. Je crois, frères et sœurs, que tous les anges du ciel ont les yeux fixés sur cette poignée de personnes que nous sommes à la fin des temps. Quand je dis nous, c'est tous les véritables disciples de Jésus-Christ qui sont sur cette terre. On ne sait pas où ils sont, mais les anges les voient et leurs yeux sont fixés sur eux. Et je crois que ces anges, qui sont des serviteurs de Dieu, nous poussent et poussent les enfants de Dieu véritables à doter leurs familles, leurs amis, de ce qui leur manque de l'autre côté. Je crois ça de tout mon cœur. Alors on va continuer à étudier, on ne va pas se faire baptiser demain pour nos morts. On va continuer à étudier toutes ces choses sérieusement. Ce sont des choses sacrées. Il faut qu'on acquiert une pleine conviction. Et quand nous aurons acquis cette pleine conviction, alors nous ajouterons le baptême pour les morts à ce que nous croyons et nous le ferons. Amen. Pour ma part, moi j'ai déjà la conviction. Sinon je ne vous le prêcherai pas, hein, vous vous en doutez bien. J'ai déjà la conviction et je vous annonce une bonne nouvelle. C'est que d'ores et déjà, je peux vous dire que je me ferai baptiser pour mon papa le 12 juin de cette année. Parce que c'est le 12 juin qu'il était parti. Eh bien, je veux me faire baptiser pour mon papa, parce que sans mon papa, je serais peut-être mort. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, j'étais tombé, j'ai fait une chute de 4 mètres, et je me suis fracassé la tête en bas sur le sol. Et les gens m'ont remonté, j'étais dans la rue, j'étais inconscient. Et je me suis réveillé, je crois que Dieu l'a voulu. Je me suis réveillé là quelques secondes, après je suis retombé de nouveau dans le coma. Et j'ai vu mon père à genoux dans la rue en train de crier à Dieu de lui rendre son fils. Eh bien, je crois que je suis là pour ça, à cause de ça. Et je crois que c'est un signe que Dieu m'a donné cette année-là, alors que j'étais un enfant, genre 11-12 ans, pour que je m'en souvienne, alors qu'il me donnerait cette révélation du baptême pour les morts, afin que j'inaugure dans notre communauté cette voie, le baptême pour les morts. Je me ferai baptiser le 12 juin, puisque ça sera l'anniversaire du décès de mon papa. Que Dieu soit béni. Je prie que Dieu vous inspire au sujet de ces choses, les choses que vous aurez à faire. Et je crois qu'on commencera le baptême pour les morts. Et je crois qu'on n'arrêtera pas, parce qu'on va tout le temps penser. Vous voyez, j'ai pensé à Madame Saint-Pierre, Madame Pierre, je ne sais pas comment vous appelez, Saint-Pierre. J'ai pensé là tout à l'heure en y prêchant, mais il faudra absolument. Je ne crois pas que c'est seulement pour les morts de notre famille. On va penser d'abord à ceux de notre famille. Mais je crois qu'on va aussi penser à des amis qui sont partis, mais qui nous aimaient bien. Vous voyez ce que je veux dire, frères et sœurs? Il faut qu'on soit inspiré par le Seigneur. Il faut qu'on pense à cela très sérieusement et qu'on fasse ce qu'on doit faire avec une totale conviction dans notre cœur, conviction que personne n'a à juger. Amen. C'est devant Dieu. Et si on se trompe, ben tant pis, Dieu ne nous en voudra pas, parce que ce sera un péché d'amour et de foi. Amen. Que Dieu nous aide, que Dieu nous dirige. C'est là ma prière. Et si on se trompe là-dedans, Dieu ne nous en voudra pas non plus. Je suis sûr que Dieu ne nous en voudra pas si ce que je vous dis est faux. Je ne crois pas que c'est faux. Mais même si c'est faux, je ne crois pas que Dieu ne nous en voudra pas, parce que ça vient d'un cœur qui a de l'amour, vous voyez, et qui a foi en Dieu, qui croit dans la justice de Dieu et qui cherche par tous les moyens à rétablir la justice de Dieu dans le cœur des croyants. Que Dieu soit béni. Amen. Alain, tu viens terminer.
Amen. Amen. Je crois qu'on a saisi tous l'importance de cela. Amen. Et que, comme Michel nous l'a conseillé, nous mettre devant Dieu tous et de savoir ce que nous avons à faire. Amen. Prendre des décisions de foi. Amen.